La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu, bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Vous êtes ici dans un temps où nous allons vivre l'accueil et le baptême d'un homme adulte qui s'approche de notre Église, pour pouvoir servir la parole de Dieu avec nous. Et nous sommes heureux de le recevoir et d'accueillir sa famille. Nous sommes ici ensemble pour entendre une parole de vie, une parole de libération. Et nous sommes ici dans un temps où nous voyons que notre vie change petit à petit, les liens se desserrent, et je pense que ça fait du bien à beaucoup, mais cela aussi rappelle toutes les difficultés, peut-être les révèle, celles qui ont été vécues pendant tout ce temps de pandémie et de confinement successifs. Nous allons donc prier les uns pour les autres, prier pour ce monde, prier ensemble. Je vous invite donc à la prière. Père, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église, tous ensemble dans la communion. Permet que nous soyons aussi une communauté de prière et de joie autour de celui qui va recevoir le signe de ta grâce. Ouvre à ton souffle de liberté sa vie et permet que nous soyons une communauté accueillante, formée par la foi en toi et en l'homme. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle, avec le premier chant dans les livrets du psautier français. Vous avez toute la liturgie avec les différents répondants des différentes prières. Et je signale aussi que ce matin, c'est David Cassan qui nous accompagne à l'orgue. Et je signale aussi que ma consœur Agnès Adeline Schaeffer n'est pas là pour des raisons familiales, mais qu'elle est là dans la communion avec nous. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Nous louons Dieu, et nous louons Dieu avec ce psaume. Louez le Seigneur, heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays, la génération des gens droits sera bénie. Il a dans sa maison des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les gens droits, pour celui qui est clément, compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires équitablement, car il ne vacillera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Sa confiance est dans le Seigneur. Son cœur est inébranlable et n'a pas de crainte. Ses adversaires lui seront offerts en spectacle. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Sa corne s'élève glorieuse. Le méchant le voit, il est contrarié, il grince des dents et se consume. Le désir des méchants disparaîtra. Je vous invite à chanter ensemble notre louange avec le psaume 81, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier français. vous invite à vous asseoir. Voici la volonté du Seigneur pour nous, telle qu'elle nous est relatée dans la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ces paroles conduisent nos vies. Je vous invite à prier avec Kierkegaard pour nous remettre sous le regard de Dieu. Père aux cieux, ne sois pas avec nos péchés contre nous, mais avec nous contre nos péchés. Qu'ainsi ta pensée, quand elle s'éveille en notre âme, et à chaque fois nous rappelle non pas ce que nous avons commis de faute, mais ce que tu pardonnas. Non pas comment nous nous sommes égarés, mais comment tu nous sauvas. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu, la grâce sur vous, cette grâce sans cesse renouvelée. À travers les paroles du prophète Ésaïe, nous pouvons entendre « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. » Je vous invite à vous asseoir et je vais accueillir maintenant Ridouane qui est avec nous aujourd'hui. Je vais t'inviter à me rejoindre. Ridouane, tu as demandé à recevoir le baptême. L'Église aujourd'hui accueille ton souhait avec joie. Ridouane, veux-tu confesser ta foi ici devant cette Église? Alors je te laisse la parole.
Avant de confesser ma foi, je vais d'abord me présenter. Tout le monde m'entend. Donc, je suis Ridouane Lamine Alain. Et comme l'indique un peu mon prénom, je suis né d'un père chrétien et d'une mère musulmane. J'ai passé une grande partie de ma scolarité dans des écoles privées catholiques à apprendre le catéchisme et les grandes vacances dans des écoles coraniques. Autant vous dire que je n'ai jamais vraiment eu de vacances. Il m'est souvent arrivé de passer mes vendredis à la mosquée et les dimanches à l'église, sans trouver une réelle satisfaction lors de mes différents cultes. Puis je me suis intéressé aux autres religions, aux sciences cognitives et sociales, à la recherche d'une cohérence ou d'un alignement. Au travers de mes recherches, je suis tombé sur vous. Je me suis mis à vous suivre de loin, puis de plus en plus près. Et j'ai trouvé de la satisfaction à chacun des cultes auxquels j'ai assisté. C'est pour cela qu'un beau matin, j'ai poussé la porte de la pasteur Béatrice afin de faire partie de votre communauté. Je vais à présent lire ma confession de foi. Je crois en un Dieu unique, quelle que soit notre religion, ou le nom que nous lui donnons. Il est le Seigneur de l'univers, le Créateur de toute espèce. Il agit à travers l'homme, la nature, les éléments. Je crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui au travers de l'Évangile, délivre un message d'amour, de partage et de rédemption. Et je crois en l'homme qui, en suivant consciemment ou inconsciemment le message de notre Seigneur, donne de l'amour à soi-même, à son prochain et dans toutes les actions qu'il entreprend. L'homme qui, à travers la communion avec son prochain, comprend qu'il n'est pas parfait et qu'il faut lui pardonner autant qu'il demande pardon au Seigneur.
Merci beaucoup, Ridouane, pour cette confession de foi. Je vous invite à chanter pour cette confession de foi et à vous lever. Reste avec moi, Ridouane. Nous chantons « Grand Dieu, nous te bénissons ». Je vous invite à rester debout pour être témoin de ce baptême. Jésus vint de Nazareth et Jean le baptisa dans le Jourdain, Ridouane. Et au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » C'est au nom de ce geste inaugural que nous baptisons encore aujourd'hui tous ceux qui se présentent au baptême et tous les enfants qui sont présentés par leurs parents. Ridouane, tu vas être baptisé au nom du Père qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi et qui t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit qui a fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. L'eau qui est ici, dans ce baptistère, est de l'eau tout à fait ordinaire. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une naissance nouvelle avec Dieu. Chaque jour, frères et sœurs, notre propre baptême, pour ceux qui sont baptisés ici, nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour tous ceux qui se présentent au baptême. Ridouane, veux-tu recevoir le baptême aujourd'hui ?
Oui.
Alors, je vais t'inviter. Ridouane, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Yvonne, cette parole est vraie aussi pour toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen.
Je vous invite à prendre le cantique 204 dans les louanges et prières, les petits livres bleus. Seigneur, dirige et sanctifie les deux strophes, s'il vous plaît. Frères et sœurs, voici Ridouane. Il est votre frère dans la foi. Il est ici, chez lui, dans cette maison. Et il est avec nous dans sa liberté complète et entière, comme il a fait ce chemin vers nous. Il est venu d'autres communions fraternelles, d'autres lieux de prière, d'autres lieux de foi. Et tous l'ont enrichi. Nous devons être témoins de cette liberté et de cette richesse, de la multitude des explications et des expressions de foi. Ridouane, tu es ici chez toi, mais si un jour tu viens à te séparer de cette communauté ou de l'Église chrétienne, l'Église ici affirmera toujours que tu peux y retrouver ta place. Ce sera pour toi le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Voilà, Ridouane, bienvenue à toi. Alors, je vais maintenant continuer cette liturgie avec une prière pour ce baptême que nous venons de vivre. Vous avez le droit de l'embrasser, hein, c'est le moment. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Ridouane, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour ses proches. Nous te remercions pour notre propre baptême, pour notre propre itinéraire et pour celui qu'a fait Ridouane ici dans cette église. Nous te remercions pour ta fidélité dans ton amour Nous marchons à tes côtés et tu es toujours avec nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, nous lirons dans l'Évangile de Marc un texte que nous avons discuté avec Ridouane au moment de sa préparation de baptême. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 13 à 17. Jésus sortit encore du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table chez lui, beaucoup de collecteurs des taxes et des pêcheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Des scribes et des pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs, disaient à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Je vous invite à chanter le cantique 213 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache pas. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher. Où et comment je te trouverai? Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible, mais où resplendit-elle cette lumière et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-moi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder. Aide-moi. Apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant je te trouve et que je t'aime en te trouvant. Anselme de Canterbury. À la question « Qui a besoin de l'Évangile ?», on serait tenté de répondre d'une façon légère « Tout le monde », pour peu qu'on considère l'Évangile comme une chose positive. Ou encore « Personne », pour peu que l'on minore l'importance de ce qu'on a coutume d'appeler « Évangile ». Pourtant, la réponse n'est pas si simple, car on peut se demander si l'Évangile répond à un besoin et si oui, lequel ? Et sinon, à quoi bon cet évangile, si cela ne répond à aucun besoin? Et puis de quoi parle-t-on quand on parle d'évangile? La bonne nouvelle, comme le mot grec l'indique, euangelios? Quelle est cette nouvelle et en quoi est-elle bonne? Et enfin pour qui? Quand les scribes et les pharisiens voient Jésus attablé chez Lévi avec les collecteurs des taxes et ceux que le texte qualifie de pécheurs, ils posent le problème de la destination de l'enseignement de Jésus. Jésus enseigne à des gens qui ne méritent pas, à leurs yeux, de recevoir cet enseignement. Dans son livre « Les pharisiens », c'est le titre, l'historienne Mireille Hadas-Lebel explique que c'est bien par souci de pureté que les pharisiens se tenaient à distance des publicains et des pécheurs. Les publicains qui collectaient l'impôt pour le compte de Rome étaient particulièrement détestés par leurs compatriotes. Ainsi, la Mishnah interdit de faire de la monnaie auprès d'un collecteur d'impôts ou d'accepter son aumône, car l'argent en sa possession est considéré comme volé. Fréquenter des publicains équivalait à fréquenter des voleurs, mais aussi des collaborateurs d'une puissance étrangère oppressive. Selon les scribes et les pharisiens du texte que nous avons lu, les collecteurs de taxes et les pécheurs n'ont pas droit à la bonne nouvelle de Jésus, en tout cas à celle qu'il est venu annoncer, précisément parce qu'ils sont pécheurs et collecteurs de taxes. En fait, l'enseignement de Jésus, d'après les scribes et les pharisiens, devrait n'être donné qu'à ceux qui sont déjà conformes aux normes de la fidélité au Dieu d'Israël. Ceux qui sont nés dans le peuple d'Israël et qui ne se compromettent pas en se mêlant aux hommes et aux femmes de mauvaise vie, comme on pourrait dire. C'est donc un entre-soi que prônent les pharisiens et les scribes. Un enseignement qui permette d'asseoir une tradition et de reproduire du même. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils font ce reproche à Jésus parce qu'ils le considèrent d'une part comme un des fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais peut-être même comme un des leurs, un pharisien lui-même qui enseigne, comme eux peuvent le faire, c'est-à-dire un membre de cette part du judaïsme d'alors qui considère que le sacré ritualisé doit sortir du temple et que tout homme est prêtre. Tous prêtres. Tiens, la formule devrait nous rappeler quelque chose, puisque c'est une affirmation du réformateur Martin Luther dans la lettre à la noblesse chrétienne de la nation allemande, quand il explique sa conception du sacerdoce universel. Nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, écrit-il. Dans sa conception, il s'agit d'affirmer que tout chrétien doit être autonome dans sa lecture de la Bible, jusque-là réservée aux prêtres, et que les hommes du clergé ne sont pas de nature différente de celle des autres membres du peuple de Dieu, les laïcs. En faisant sortir la Bible et la lecture de la Bible des églises, c'est le caractère sacré du rite chrétien qui s'est parfois répandu dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Et dans son excès, cette affirmation a donné un puritanisme terrible, imposant un ascétisme strict dans tous les secteurs de la vie, jusque-là profane. Le sacré n'étant plus réservé à un temps, un espace, un clergé, il risque alors d'envahir la vie tout entière, privant les fidèles de la liberté que la réforme avait pourtant appelée de ses vœux. Car tout devenait alors risque de péché. L'austérité protestante dont on parle tellement quand on regarde de l'extérieur le protestantisme est sans doute la trace de cette imprégnation de toute la vie profane par la présence de Dieu et de ses commandements. La vie entière devient alors, dans l'excès de cette formule, à une vie religieuse. Et du même coup, le problème du mal, auquel les réformateurs avaient opposé une grâce sans condition, devient le problème de chacun avec ses propres péchés qu'il doit prendre en charge seul devant Dieu. Si la vie entière est religieuse, alors le péché peut être partout, puisque tout concerne Dieu. D'où les discours ultra-moralisateurs de certains courants protestants, qui règlent la vie entière sur des critères bibliques littéralistes et font de la Bible un livre de recettes pour ne pas tomber dans le péché. On revient alors à un salut par les œuvres, en quelque sorte, puisque tout ce qu'on fait doit être fait en fonction de ce péché pour gagner son salut, pour ne pas retomber dans le péché. Ainsi, on retombe dans l'écueil que les réformateurs voulaient empêcher, dans lequel la vie humaine est l'œuvre qu'il faut accomplir conformément aux commandements de Dieu pour obtenir son salut. La grâce qui avait touché Martin Luther est bien loin dans cette façon de la lire. Et la reconnaissance qu'elle inspire, au lieu de libérer le chrétien du fardeau d'avoir à payer sans cesse ses fautes, lui fait porter chaque jour le poids de l'accomplissement personnel au nom de Dieu. Voyez comme le piège fonctionne. Au lieu d'en rester à l'impossibilité pour les hommes d'être des saints par leur propre force parce qu'ils sont humains et qu'ils ne seront jamais comme Dieu, on en vient à faire du chrétien le responsable coupable de son salut. Et c'est là son œuvre. C'est un retour à la case départ, mais dans une version pire que celle du salut par les œuvres, parce que cette fois, vous êtes seul. Plus aucune église ne peut rien pour vous, si ce n'est, évidemment, quelques pasteurs qui vous disent comment faire pour sortir, par votre propre ascétisme, de ce péché qui envahit tout dans votre vie. Donc vous risquez en plus d'être la proie de quelques manipulations. Le pharisianisme du temps de Jésus est confronté au même défi qui s'accentuera avec la destruction du temple. Comment placer le curseur sur l'échelle de l'observance religieuse dans la vie quotidienne quand chacun devient tout à coup responsable de sa propre pureté? Il ne s'agit plus d'attendre d'aller au temple pour se faire purifier, pour revoir l'ardoise qu'on a avec Dieu. Il s'agit là de se débrouiller tout seul avec son péché et son impureté chaque jour. Voilà le problème des pharisiens. La réponse de Jésus est sans appel. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Pour lui, la question n'est pas qui a le droit à l'enseignement d'un rabbi, mais plutôt qui en a besoin. Un texte comme celui-là pose problème à la première écoute. Car il parle du péché non pas comme un fait ontologique, comme la trace de la chute d'Adam en nous, qui fait que nous sommes dans une condition humaine qui ne peut échapper au mal, mais comme une maladie que l'être humain aurait contractée dans la vie quotidienne et qu'un autre pourrait soigner. Jésus se compare à un thérapeute d'une maladie qui fait que certains choisiraient d'être collecteurs des taxes, peut-être, pécheurs, puisque le texte parle des pécheurs. Étrange maladie que celle-ci. Étrange conception du péché que celle qu'expose Jésus en réponse aux pharisiens et aux scribes. Alors Jésus est-il si différent d'eux au bout du compte? La différence avec les scribes et les pharisiens, pour Jésus, c'est que Jésus se mêle à ceux que les religieux bien-pensants ne veulent même pas approcher de peur de se souiller. Il mange avec eux, il s'affiche avec eux, il accepte d'être pécheur avec eux et d'être vu comme tel. En faisant cela, il pose un acte prophétique qui rappelle la promesse d'Ésaïe. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. En faisant cela, Jésus ne se place pas au-dessus des pécheurs. Il est dans la même condition humaine qu'eux. À ceci près que lui peut les guérir, me direz-vous, puisque le texte l'annonce. Jésus déclare : ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et ensuite il ajoute : je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il prévient ainsi les scribes et les pharisiens que la bonne nouvelle qu'il est venu apporter est pour ceux qui en ont besoin et qui estiment en avoir besoin. D'autre part, il n'est pas venu soigner ceux qui sont pécheurs, la comparaison est plus subtile que ça, mais les appeler. La référence au médecin dans cette comparaison est là pour remettre les scribes et les pharisiens devant une réalité qu'ils ont oubliée. Si le salut de Dieu ne s'adresse qu'à ceux qui sont déjà sauvés, à quoi bon? Mais on aurait envie de dire avec malice que ceux qui ont le plus besoin de la bonne nouvelle portée par Jésus, ce ne sont certainement pas ici les collecteurs des taxes et les pécheurs avec qui il est attablé chez Lévi, mais bien les scribes et les pharisiens. Dans ce texte, l'ironie est à son comble. Jésus, en s'attablant avec les rejetés de la société, révèle le péché des pharisiens et des scribes qui ne veulent pas aimer leurs prochains comme eux-mêmes, qui ne veulent pas aller à leur contact. Alors, qui a besoin de l'Évangile? Sans doute tout le monde, car notre condition humaine nous voue à une constante réforme de nos a priori, de nos haines, de nos bassesses. Nous ne sommes jamais complètement justes. Mais qui peut accueillir l'Évangile? Là est sans doute la véritable question qui est renvoyée aux scribes et aux pharisiens qui, ce jour-là, ne comprenaient pas que Jésus se compromette en allant manger et partager la parole de Dieu avec des gens peu fréquentables. Sans doute ne faut-il pas être trop plein de certitudes sur Dieu, de dogmes bien ficelés et prêts à croire. Sans doute faut-il se savoir un peu lâche, un peu menteur, bref, un peu pécheur, pour accepter d'avoir besoin d'une bonne nouvelle capable de nous ressusciter. Sans doute faut-il avoir des brèches dans sa vie, des points obscurs, des incapacités à aimer, des peurs et des renoncements, pour que cette bonne nouvelle vienne non pas combler les creux de notre vie, mais les pensées avec un A, les apaiser comme le baume du médecin. Aujourd'hui, nous avons été témoins du baptême de Ridouane, qui a confessé sa foi en ces termes, et je crois en l'homme qui, en suivant consciemment ou inconsciemment le message de notre Seigneur, donne de l'amour à soi-même, à son prochain et dans toutes les actions qu'il entreprend. L'homme qui, à travers la communion avec son prochain, comprend qu'il n'est pas parfait et qu'il lui faut pardonner autant qu'il demande à l'être au Seigneur. Voilà le besoin d'Évangile. Ce n'est pas un besoin de plus de religion, mais un besoin de plus d'humanité. Ce besoin est celui qui nous rend frères et sœurs dans la même condition humaine. Il est là où se trouve notre humanité même. Et c'est cette humanité que Jésus est venu appeler, transporter, révéler. Non pour l'accabler avec ce qu'elle est, mais pour lui annoncer une bonne nouvelle. Dieu aime cette humanité dans son imperfection même. Il est avec elle, là où elle n'est pas parfaite. Et cet amour la sauve, cette humanité, d'être obligée de se sauver par ses propres forces, par ses propres œuvres. Ne dit-on pas, quand nous recevons un appel à servir la parole de Dieu, que Dieu me soit en aide ? Puissions-nous, dans nos vies, en creux, faire une place à notre besoin d'Évangile. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 315, les strophes 1, 4 et 6 dans les louanges et prières. 1, 4 et 6, 315. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons avoir quelques annonces sur la vie de notre Église dans les prochains jours. Et c'est Aurore Sagliotebo, présidente du Conseil presbytéral, qui nous partage ces annonces.
Bonjour à tous, merci Gérard. Au nom du Conseil presbytéral, Idoine, bienvenue. Bienvenue et merci Béatrice de t'être occupée d'Idoine et d'avoir aussi décidé ensemble, je ne sais pas si c'est un hasard, mais que ça se passe aujourd'hui alors que l'imam était avec nous, Fakir Korshan, la semaine dernière.
Alors c'est tout à fait, enfin ce n'était pas voulu, c'est le hasard du calendrier qui est peut-être pas un hasard, j'en sais rien, mais, en tout cas qui est comme ça. C'est-à-dire que la semaine dernière, Fakir était avec nous. Et dans la même communion qu'aujourd'hui, nous sommes avec Ridouane qui fait ce chemin. Voilà, merci.
En tout cas, vraiment bienvenue. Nous avons énormément d'événements au mois de juin, donc je ne vais pas tous vous les réciter. C'est vraiment important, comme l'activité reprend de façon assez dense et intense, que chacun d'entre vous puisse retrouver le programme ou à travers ce qu'on appelle la newsletter qu'on envoie par email tous les vendredis. Donc si vous n'avez pas la newsletter, je regarde aussi la caméra, vous allez tout en bas du site de l'Oratoire du Louvre et vous vous inscrivez, il y a marqué « Inscrivez-vous à la newsletter », vous mettez votre mail, c'est une base de données que nous n'avons pas, donc on ne garde pas votre email, à chaque fois que vous voulez ne plus la recevoir, vous vous enlevez, c'est totalement anonyme et ça vous permet de recevoir les nouvelles. Et également, je regarde Jean-Luc, notre conseiller en charge, vous avez le site internet qui est aussi régulièrement à jour. Donc pour cette semaine, simplement à retenir, dimanche prochain, la fête de la paroisse où nous aurons la chance d'avoir les enfants physiquement avec nous, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu les enfants physiquement avec nous, de l'éducation biblique. Nous avons aussi, dans le cadre de la réouverture de la librairie, et la pression est sur Benjamin et l'équipe de bénévoles, puisque la librairie va réouvrir sur une sélection d'essentiels choisis par Laurent Gagnebin et André Gounel. Donc Laurent Gagnebin et André Gounel nous ont fait une sélection d'essentiels du libéralisme ou du protestant libéral ou du protestantisme libéral. Et ne soyez pas surpris, en arrivant dimanche prochain, la librairie ne sera pas là, elle sera dans la sacristie. Et ça n'est pas pour changer, c'est pour des raisons d'espace et de sécurité sanitaire pour chacun d'entre nous. Également, nous aurons Pierre-Olivier Léchaud, juste après le culte, qui va nous présenter son dernier ouvrage. Donc restez, et pour ceux qui veulent rester après, l'après-midi, nous allons avec les enfants visiter la petite Genève, emmener un pique-nique pour avaler quelque chose entre les deux. La seule chose que nous n'avons pas le droit de faire, c'est de pouvoir préparer des repas ou prendre des verres de l'amitié. La législation nous l'interdit, y compris dans les restaurants nous ne pouvons pas consommer debout. Donc ça n'est pas parce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne pouvons pas. Avant dimanche prochain et la fête, surtout jeudi. Jeudi, nous faisons ce qu'on a appelé un culte musical. C'est plutôt une méditation musicale sur ceux qui en ont besoin après 18 mois de pandémie. Et je fais écho à ta prédication, Béatrice. Beaucoup de gens peuvent avoir des besoins et un besoin d'humanité. C'est une réflexion, une méditation sur les 18 mois que nous venons de passer en musique avec Sarah à l'orgue, Alexandre au piano et une soprano soliste, amie de Sarah Kim, qui va nous faire le plaisir de venir. Je vous en prie, venez jeudi à 19h avec des amis, se poser dans notre humanité, dans notre réflexion sur ce qui nous est arrivé les 19 derniers mois. Donc jeudi, 19h. Premier dimanche du mois, offrande pour l'entraide. J'appelle Gilles, si tu peux nous parler un peu de l'entraide, ça fait aussi partie de l'humanité et de preuve d'humanité.
Oui, merci Aurore. Bonjour à tous. Donc je vais quand même essayer aussi d'être bref. Donc je profite d'avoir le micro pour relayer à nouveau l'appel de Denise Brigou de l'Armée du Salut, qui a besoin, avec son association, de produits de soins et d'hygiène corporelle. Donc quand vous passez dans le rayon en faisant vos courses, pensez à l'Armée du Salut et vous pouvez nous amener donc ces produits de soins et d'hygiène quand vous visitez le temple à l'occasion du culte ou d'une pause spirituelle, et vous pourrez les déposer dans la première chapelle qui est à votre gauche en entrant dans le temple. Donc voilà, merci à l'avance. Et puis aujourd'hui, donc nous sommes le premier dimanche du mois et le produit de la collecte donc va permettre à l'entraide à aider les plus démunis parmi nous. Donc vous pouvez également faire un don joyeux à l'entraide. Hein. C'est un petit clin d'œil à Aurore. Donc ce don sera évidemment très bien utilisé et apprécié et attendu. Donc merci. Donc dans quelques instants la collecte. Et bon dimanche et bonne semaine à tous.
Merci Gilles. C'est donc maintenant le moment de l'offrande. Donnez avec votre générosité de ce que vous avez vous-même reçu.
Thank you.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour Ridouane et sa famille, pour tous ceux qui jusqu'ici l'ont formé à interroger la question de Dieu dans sa vie. Permets que tous soient sur son chemin comme ceux qui l'ont fait avancer et qu'ils soient dans la reconnaissance. Merci Seigneur pour ces chemins si divers que tu nous montres sans cesse, pour cette façon que tu as de nous alerter sur la complexité des vies de ceux qui nous rejoignent, qui nous rencontrent. Merci de rendre toujours les choses plus complexes qu'elles ne paraissent au premier abord. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir le courage de chercher derrière les apparences, d'avoir le courage d'aller interroger tous ces parcours et de regarder sincèrement nos parcours en nous demandant toujours où nous en sommes de notre relation à toi. Permets, Seigneur, que ces chemins soient toujours des chemins de liberté. Aide-nous, Seigneur, à combattre un dogmatisme stérile. Aide-nous à empêcher ceux qui font du mal aux fidèles, aux croyants. Aide-nous à les empêcher, à continuer à faire du mal, en dirigeant d'une main de fer parfois la conscience des uns ou des autres, souvent dans la fragilité. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui laissent faire cela en ton nom. Seigneur, nous te remettons tous les croyants du Brésil, avec ce qui se passe en ce moment dans ce pays, où des pasteurs se sont ligués avec des narcotrafiquants pour ramener à la vraie foi des croyants qui avaient un parcours particulier de religion métissée. Empêche ces violences, Seigneur, et permet que nous soyons des apôtres de la paix et de la non-violence. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui sont les victimes des religieux. Et nous te demandons la paix dans notre monde, mais d'abord la paix en chacun, pour qu'aucun ne se croie obligé de t'utiliser ou d'avoir raison sur toi plus qu'un autre. Apprends-nous, Seigneur, l'humilité devant toi. Rappelle-nous que nous sommes tous pécheurs dans cette condition d'homme avec les limites qui sont les nôtres et que nous sommes aimés ainsi. Et ensemble, nous te disons dans la confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, cette halte était le temps de nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous remette debout, qui nous console peut-être, qui nous interroge sans doute. C'était aussi le temps d'accueillir Ridouane ce matin, avec sa famille, avec tous ceux qui l'accompagnent. Alors, que ce temps béni, vous puissiez le donner à ceux qui sont à l'extérieur, ailleurs, ceux que vous rencontrerez. Que ce temps de la joie d'être dans l'amour de Dieu soit contagieux dans ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Amen.